Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Merci d'écouter Radio Orient, Swada Kermani. À la une en France, une surveillante tuée par un collégien s'est arrivée à Nogent en Haute-Marne. Un drame qui suscite beaucoup d'émotions dans votre magazine, le vice-président de la FCPE, Grégoire Ancel. Le navire humanitaire Le Madeleine a empêché d'accoster et dérouté vers le sud d'Israël hier soir. Les militants ont été arrêtés par les autorités israéliennes. Et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, veut une bande de Gaza sans armes. Un souhait exprimé une semaine avant la conférence de l'ONU à New York. Voici l'essentiel de l'actualité. En France, une surveillante est décédée à Nogent, en Haute-Marne, après avoir été poignardée ce matin par un élève de 14 ans, alors que des gendarmes contrôlaient les sacs des élèves près du collège Françoise Dolto. Le collégien a été placé en garde à vue et les 324 élèves de l'établissement ont été confinés. Les cours reprendront jeudi. Le président Emmanuel Macron dénonce un déferlement de violence insensée. Et en Autriche, au moins 10 morts, dont des élèves après des tirs dans un établissement scolaire ce matin. L'Allemagne exprime son soutien à l'Autriche. Au Liban, l'une des patrouilles de la mission de l'ONU a été caillassée par des habitants dans un village du sud. Des casques bleus ont été confrontés à un groupe d'individus en civil lors d'une patrouille coordonnée avec l'armée libanaise. Toujours au Proche-Orient, on compte au moins 17 tués selon la défense civile de Gaza. Des Gazaouis tentaient d'accéder à des centres de distribution d'aide. Depuis fin mai, plusieurs dizaines de Palestiniens sont morts à proximité de ces centres gérés par la Fondation humanitaire de Gaza. Et en Cisjordanie, une vaste opération militaire israélienne a débuté tôt aujourd'hui autour de la vieille ville de Naplouse. En Syrie, 2 morts dans des frappes de drones dans la région d'Idleb, dans le nord-ouest du pays, bastion des anciens rebelles islamistes désormais au pouvoir. L'origine de ces frappes, pour le moment, reste inconnue. Le Royaume-Uni sanctionne 2 ministres israéliens. Il s'agit du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et son homologue de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Et du côté de l'ONU, des enquêteurs indépendants accusent l'État hébreu d'extermination en tuant des civils réfugiés dans des écoles et des sites religieux dans l'enclave et estiment que cela constitue des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Une nouvelle réunion Iran-États-Unis sur le nucléaire est prévue cette semaine à Oman. L'Iran va aussi bientôt soumettre sa proposition aux États-Unis pour un accord sur le dossier nucléaire iranien. Téhéran a critiqué la proposition américaine, déclarant qu'elle n'incluait pas la levée des sanctions économiques. Et dans le reste de l'actualité internationale, au Soudan, la famine menace plusieurs zones du sud de Khartoum. Le Programme alimentaire mondial exhorte la communauté internationale à agir immédiatement en augmentant les financements pour stopper la famine. Dans l'actualité internationale, toujours, un nouvel échange de prisonniers de guerre a eu lieu entre Kiev et Moscou hier. Cet échange fait suite à l'accord trouvé à Istanbul, 7 jours plus tôt, dans le cadre d'un deuxième cycle de pourparlers. Et pendant ce temps-là, les autorités ukrainiennes ont déclaré que Kiev et Odessa ont subi une attaque massive de drones russes durant la nuit. Volodymyr Zelensky exhorte les États-Unis et l'Europe à une réaction concrète. Dans l'Aisne, 2 pompiers ensevelis sous des décombres sont morts à la suite de l'effondrement d'un immeuble. Près de 170 personnes ont été mobilisées sur place dans la nuit. Les députés ont observé une minute de silence. Vous êtes à l'écoute de Radio Orient. Place à présent à notre tour d'horizon de l'information. Ce drame en Haute-Marne, une surveillante du collège Françoise Dolto à Nogent a été tuée par un élève alors que les gendarmes effectuaient un contrôle des sacs aux abords de l'établissement. Un élève a sorti un couteau et a tué cette assistante d'éducation âgée de 31 ans. L'élève de 14 ans a été arrêté. La réaction du vice-président de la Fédération des conseils de parents d'élèves, Grégoire Ancel.
C'est un drame absolu, c'est le choc, c'est la sidération et nos pensées vont immédiatement à la famille de la victime, à ses collègues, aux élèves de l'établissement et à l'ensemble des personnes qui composent la communauté éducative du collège. Au-delà de ça, c'est toute la communauté éducative française, tout le pays qui est sous le choc et qui porte le deuil de ce drame. Aujourd'hui, la réponse que l'on attend, c'est déjà de cesser les polémiques sur ce type de situation. Et on attend un sursaut, une réponse collective pour donner les moyens à l'école d'éduquer les enfants à la non-violence, de faire en sorte qu'il y ait assez d'adultes dans les établissements pour repérer les élèves qui ne vont pas bien, qui sont en mesure, avec des enseignants, des surveillants, des personnels scolaires, des chefs d'établissement, qui sont capables de repérer les signaux faibles et d'orienter les élèves qui ne vont pas bien vers des psychologues, vers des psychiatres, et de faire en sorte qu'aujourd'hui, les problèmes de santé mentale des élèves soient pris en compte. Donc avant de polémiquer, on va déjà attendre que le procureur s'exprime, nous donne un peu clairement l'enchaînement des faits, ce qui s'est passé, et il faut qu'on réfléchisse à l'échelle du pays. Comment est-ce qu'on outille l'école pour faire face à ces violences-là? Ça, c'est un enjeu. Et puis, la société va devoir également s'interroger tout entière sur la violence qui est la sienne au quotidien, dans la rue, dans des tas d'endroits, sur les terrains de foot, dans les transports, parce que l'école n'est qu'un des symptômes. Et dernier élément, nous attendons effectivement de l'école que des compétences de dialogue, de bienveillance, de médiation soient apprises aux élèves pour faire en sorte que la violence ne se banalise pas dans les établissements et qu'on puisse avoir un climat scolaire qui soit à la hauteur de nos enjeux.
C'était le vice-président de la Fédération des conseils de parents d'élèves, Grégoire Ancel. Et quelques heures après à l'Assemblée nationale, le Premier ministre François Bayrou a dénoncé une décomposition de la société. On l'écoute.
L'ampleur de la vague, nous la connaissons tous, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons. C'est une décomposition de la société dans laquelle nous vivons. Et c'est le surgissement de pratiques de vie communes. L'un de mes collègues disait à l'instant tout bas que son petit garçon de 10 ans lui a dit « Quand est-ce que je pourrais avoir un couteau à l'école ?» Et ceci dans tous les milieux naturellement les plus fragiles. On a deux choses essentielles à faire. La première de ces choses, c'est construire des règles et une réponse pénale qui puissent aller dans le sens de la dissuasion que ces jeunes, souvent garçons, pourront éprouver avant de se saisir d'un couteau et de le mettre dans leur sac.
C'était le Premier ministre François Bayrou. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas veut une bande de Gaza sans armes. Il souhaite la démilitarisation et la mise à l'écart du Hamas dans l'enclave dans le cadre d'un futur État palestinien. Une lettre dans ce sens a été adressée au président français et au prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, qui co-présideront la conférence de l'ONU sur la solution dite à deux États du 17 au 21 juin à New York. Les explications de François-Xavier de Calonne.
Oui, Mahmoud Abbas fait état d'une série d'engagements. Le président de l'autorité palestinienne, dans cette lettre, se dit aussi prêt à inviter des forces arabes et internationales à se déployer dans le cadre d'une mission de stabilisation-protection avec un mandat du Conseil de sécurité. Mahmoud Abbas ajoute qu'un futur État palestinien n'a aucune intention d'être un État militarisé et est prêt à travailler à des arrangements de sécurité au bénéfice de toutes les parties dès lors qu'il bénéficie d'une protection internationale. Dans sa lettre, Mahmoud Abbas s'engage également à continuer de réformer l'autorité palestinienne. Il confirme vouloir organiser des élections présidentielles et législatives d'ici un an sous supervision internationale. L'Élysée salue dans un communiqué des engagements concrets et inédits, des engagements qui, selon Paris, témoignent d'une volonté réelle d'avancer vers la mise en œuvre de la solution à deux États. La France veut faire de la conférence internationale prévue à l'ONU la semaine prochaine un moment clé pour relancer la solution à deux États. Emmanuel Macron se dit déterminé à reconnaître un État palestinien potentiellement à cette occasion. Il a aussi émis plusieurs conditions, dont la démilitarisation du Hamas et sa non-participation à la gouvernance de cet État.
Sur les enjeux de cette réunion la semaine prochaine à New York, je vous propose d'écouter l'ex-député européen Patrick Le Yarrick.
La décision que devrait prendre cette conférence internationale, c'est de déployer une force de protection des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. s'il n'y a pas cette force de protection internationale sous l'égide de l'ONU qui est déployée, on ne voit pas comment le pouvoir israélien va s'arrêter par lui-même, d'autant que les États-Unis et quelques pays européens, mais surtout les États-Unis, les soutiennent. Parce que ce qui est en train de se passer est totalement affreux. Tout le monde désormais le dit, les organisations non gouvernementales, tous les médecins qui sont sur place, les fonctionnaires, les agents de l'Organisation des Nations Unies et beaucoup de chefs d'État et de gouvernement, comme l'a fait il y a quelques jours le président Lula, à juste titre, devant Emmanuel Macron. Et donc, on ne peut pas laisser faire, par exemple, cette opération qui consiste à organiser un double crime, en quelque sorte, puisque on organise la famine, ils ont mis en place eux-mêmes, par devers l'ONU, un système privé de distribution alimentaire, et quand les gens viennent se ravitailler, on leur tire dessus, on les tue. Donc, qui peut tolérer ça? Et est-ce que il y a une majorité de gens à l'Assemblée générale des Nations unies pour accepter ça? Évidemment que non. Donc, il faut prendre des décisions, et des décisions énergiques désormais.
Et justement, comment avez-vous vécu le veto américain la semaine dernière?
L'administration américaine, elle est le complice direct, c'est le complice le plus direct du crime de génocide qui est en train de se passer dans la bande de Gaza, et le complice le plus direct de l'élimination du peuple palestinien et de l'élimination de tout avenir pour son peuple sur son territoire historique.
C'était Patrick Loyaric, l'ex-député européen, au micro de François-Xavier de Calonne. Alors que 6 militants français ont été arrêtés par les autorités israéliennes à bord d'un navire cherchant à briser le blocus de Gaza, deux d'entre eux ont accepté une expulsion immédiate. Les quatre autres sont en attente d'une décision judiciaire. Le point avec Nadia Bencher.
En effet, deux des six ressortissants français arrêtés lundi par Israël après l'interception d'un bateau de la coalition de la flottille pour la liberté ont accepté d'être expulsés sans attendre le jugement. Ils devaient regagner la France ce mardi, selon le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui s'exprimait en marge du sommet sur les océans à Nice. Les quatre autres militants ont refusé cette procédure accélérée. Leur sort dépendra donc d'une décision des autorités judiciaire israélienne attendue dans les prochains jours. Parmi les personnalités présentes à bord du navire figuraient notamment l'eurodéputée La France Insoumise Rima Hassan et l'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg qui a quitté Israël pour la Suède. Le bateau a raisonné lundi matin, faisait partie d'une initiative internationale non violente combinant aide humanitaire et protestation politique contre le blocus imposé à Gaza. Le président Emmanuel Macron a dénoncé ce blocus comme un scandale humanitaire, assurant que la France avait passé tous les messages nécessaires à Israël pour garantir la protection de ses ressortissants. L'ambassade et les services consulaires français à Tel Aviv suivent la situation de près. L'équipe diplomatique restera au contact de nos ressortissants, comme le lui permet la protection consulaire, pour s'assurer de leur état jusqu'à leur retour en France, a indiqué le chef de la diplomatie française, précisant que des appels d'information aux familles avaient été effectués, notamment après les visites consulaires survenues en pleine nuit.
Direction Nice à présent, où une soixantaine de dirigeants internationaux se sont réunis ce lundi pour défendre les océans lors de la troisième conférence de l'ONU consacrée à leur protection. On retrouve Nadia Bencher.
Dès l'ouverture, le président français a appelé à un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds, dénonçant une folie prédatrice menée sans connaissance suffisante des écosystèmes. Les abysses ne sont pas à vendre, a-t-il déclaré, reprenant une formule déjà utilisée contre les visées expansionnistes du président américain. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui aussi mis en garde contre une dérive vers un Far West des grands fonds, tandis que le président brésilien Lula a dénoncé la montée d'un unilatéralisme océanique. Au-delà des discours, les annonces se sont multipliées. Plusieurs pays, dont la Grèce, le Brésil et l'Espagne, ont promis de nouvelles aires marines protégées. La Polynésie française ira plus loin avec ce qui deviendra, selon l'UICN, la plus vaste zone protégée au monde. Autre avancée, 18 nouveaux pays ont ratifié le traité sur la haute mer, portant le total à 50 sur les 60 nécessaires. Emmanuel Macron espère une entrée en vigueur dès janvier prochain. Mais malgré cet élan, les ONG appellent à davantage d'ambition. La promesse de protéger 30% des océans d'ici 2030 semble hors d'atteinte au rythme actuel. À ce train-là, il faudra 300 ans, alerte Emmanuel Consalves, scientifique de la Fondation Océano Azul.
Parcoursup, c'était l'ouverture ce mardi à 14h de la phase d'admission complémentaire pour les lycéens de terminale et les étudiants en réorientation. Une nouvelle chance pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu de proposition d'admission ou qui souhaitent changer d'orientation, les précisions de Arthur Claude Savoie.
Cette phase dite d'admission complémentaire permet aux candidats de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans des formations disposant encore de places. Elle s'adresse notamment aux élèves n'ayant eu que des réponses négatives, à ceux qui sont toujours en liste d'attente ou encore à ceux qui veulent tenter leur chance dans une formation plus en adéquation avec leur projet professionnel. C'est en quelque sorte une phase de rattrapage ou de seconde chance. Les candidatures seront possibles jusqu'au 9 septembre et les établissements répondront au fur et à mesure jusqu'au 11 septembre. En 2024, c'était 80 000 candidats qui avaient ainsi trouvé une formation grâce à cette phase. Selon le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 66% des lycéens ont reçu au moins une proposition d'admission dès le premier jour et 2,67 millions de propositions ont été envoyées aux candidats. Enfin, un rappel important, les délais de réponse à Parcoursup seront suspendus pendant les épreuves écrites du bac qui commenceront le 16 juin avec la philosophie. Les résultats du bac tomberont le 4 juillet.
C'était le tour d'horizon de l'actualité sur Radio Orient. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui encore et excellente suite des programmes sur Radio Orient.